pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin, Jardin aux Tuileries, l'événement dédié au jardin urbain et à toutes les formes de nature en ville. C'est en effet d'ici, dans ce jardin historique, que nous émettons aujourd'hui en public pour une série d'émissions pour une ville nature sous l'égide du programme européen Cité Verte Europe. Petite répétition dans mon propos, avec le soutien de l'Union européenne et le relais en France de Valor. Alors, quelques mots sur Valor pour celles et ceux qui, hélas, ne connaîtraient pas encore cette institution. C'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. L'école et la nature. Pierre Perret disait « Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises ». L'association de ces deux termes, école et nature, a longtemps résonné comme une certaine nostalgie. Les habits boueux de la guerre des boutons, du petit gibus, vous vous souvenez, à la syntaxe assez approximative. Le film d'Yves Robert, que je vous invite toutes et tous à revoir ou à voir. Le terrain vague du petit Nicolas, sous les traits de Sempé et la plume de Goscinny. Ces dernières décennies, l'école était plutôt associée au bitume, au sol souple, immergé, aux éléments normés. Pardon, j'ai sauté une ligne, c'est terrible de lire un texte. Nous allons nous mettre progressivement au niveau. Et pourtant, les forest schools, ces écoles où les enfants sont immergés en extérieur, très répandues en Scandinavie, ont fait l'objet ces dernières années de nombreux articles, bien avant la crise sanitaire. Je pense notamment à un article, puis à un dossier dans le journal Le Monde, en septembre 2018. C'était une autre époque, c'était le monde d'avant. Et au cœur de la crise sanitaire, il y a 2 ans, la maire de Paris, puis le ministre de l'Éducation nationale, incitaient, pour des raisons sanitaires justement, à faire classe dehors. Alors pourquoi mettre les enfants dehors? Et je ne parle pas d'une punition d'un autre temps. Que faire en extérieur? Quelle importance du lien avec la nature pour les enfants? Ce sont autant de questions que nous allons aborder dans quelques instants pour un peu plus de 40 minutes d'échange avec nos invités que je vais vous présenter juste après le générique.
Ville.
Nature.
Végétal.
Architecture.
Quartier.
Paysage.
Biodiversité.
Culture. Le vivant et la ville s'allient à Jardin Jardin, aux Tuileries.
Le végétal au service de l'éducation, des forest schools aux cours d'école plantées, faire classe dehors, c'est le thème de notre émission. Pour en parler, je me tourne à ma droite vers Sabrina de Canton. Sabrina, vous êtes première adjointe au maire de Saint-Ouen, déléguée à la transition écologique, aux mobilités et à la nature en ville.
Bonjour.
À ma gauche, Thibaut Pinsard, fondateur des Déclics.
Bonjour.
À votre gauche, Thibaut Bertrand Chavanel, vous êtes responsable éducation et numérique chez Manutan Collectivité.
Bonjour.
Et enfin, à la droite de Sabrina, Nicolas Brulard, responsable de Caresser, solution pour l'agriculture urbaine.
Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez, qui allez nous regarder en replay, nous écouter en podcast et à vous, cher public, qui êtes présents pour cet enregistrement. Alors, nous avons planté le décor. Et je me tourne d'abord vers Thibaut. On a évoqué un sujet qui est régulièrement mis en avant sur le site internet des Déclics, lesdéclics.com, si je ne m'abuse. C'est le terme plutôt de Forest School. Pour vous, quelles sont les vertus des activités pour les enfants à l'extérieur des bâtiments?
Alors, les bienfaits du jeu en plein air ou des activités en extérieur, ils sont multiples. Moi, j'aime bien les séparer en 4 catégories. Globalement, le contact avec la nature, ça va aider les enfants à gagner en confiance en eux parce qu'ils vont évoluer sur des terrains variés. Donc, du coup, ils vont peut-être prendre des risques à certains moments et donc, du coup, se faire de plus en plus confiance à d'autres moments où ils auront pris des risques par le passé. Ça leur permet de réduire leur stress et d'améliorer leur concentration puisqu'ils ne sont pas enfermés entre 4 murs, ils sont beaucoup plus libres et ça les rend moins colériques, moins anxieux, beaucoup plus peuvent plus être expressifs, pardon. Bien sûr aussi, ça améliore tout ce qui est défense immunitaire, puisqu'ils vont, ils vont être à l'extérieur régulièrement, et donc du coup, ça va améliorer leur système immunitaire. Et c'est, aussi, ça développe leur motricité fine et globale, puisqu'ils vont se mouvoir dans la forêt ou dans un espace vert, et ils vont aussi manipuler des petits objets avec leurs mains, et donc ça va développer leur motricité. Et le dernier gros bienfait, qui est peut-être le plus important, c'est d'éveiller une conscience environnementale chez les enfants dès le plus jeune âge, puisqu'on sait très bien qu'on ne protège pas ce qu'on ne connaît pas. Et donc, si les enfants sont en contact avec la nature dès le plus jeune âge, ils auront envie de la protéger plus tard.
Alors, rappelez-nous en quatre mots-clés, ces quatre dimensions pour vous d'emmener les enfants à l'extérieur.
Donc, il y a la confiance en soi, la réduction du stress et l'augmentation de la concentration, les bienfaits immunitaires sur la motricité et le système immunitaire, et la conscience environnementale.
Alors, vous parlez de conscience environnementale. Effectivement, c'était le commandant Cousteau, que je vais mal citer, qui nous disait que on ne connaît que ce que l'on aime, que ce qui nous émeut, et qu'on ne protège que ce que l'on connaît. C'est une citation tout à fait approximative. Être à l'extérieur, c'est une chose, mais on peut être à l'extérieur comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, et pour pousser, on se débat, les paroles de Maxime Le Forestier. Plus spécialement, Thibault, quelles seraient pour vous les vertus du contact à l'extérieur avec la nature, ou en tous les cas avec différentes formes de nature?
C'est à peu près ce que j'ai dit juste à l'instant, c'est vraiment... Il y a plein de bienfaits qu'on peut citer en plus de ce que j'ai dit juste à l'instant, mais les premiers bienfaits, c'est vraiment que les enfants se sentent moins privés de liberté, qu'ils se sentent plus pouvoir plus exprimer leur envie de bouger, ou leur créativité, ou leur motivation à faire je ne sais quoi, et donc du coup leur faire confiance aussi, leur faire confiance pour qu'ils soient un peu plus acteurs de leurs activités. Donc nous, par exemple, au Déclic, on met beaucoup en pratique ce qu'on appelle le jeu libre, et ce qui est en fait un temps vraiment d'exploration de la nature où les enfants sont eux-mêmes acteurs, et on leur fait confiance pour découvrir par eux-mêmes plein de choses. Et c'est aussi l'essence même des Forest School, c'est faire confiance aux enfants pour apprendre par eux-mêmes dans un milieu au contact de la nature.
Ça, c'est intéressant, puisque on citait de manière un peu caricaturale l'école un peu aseptisée qu'on connaît aujourd'hui pour des questions de sécurité notamment. Faire confiance, confidérer, faire avec, c'est donner l'opportunité aux enfants de prendre des risques, mais des risques mesurés, j'imagine.
Exactement. Il y a plusieurs types de Forest School. Nous, on fait une forme de forest school puisqu'on fait des activités en plein air, mais à la base les forest school c'est des écoles en forêt où les enfants passent la journée dehors toute l'année, et on est amené à faire confiance aux enfants pour qu'ils prennent ces risques là, par exemple à monter aux arbres. Parfois on se fait un peu taper dessus par les jardiniers, mais l'idée c'est vraiment de faire confiance aux enfants, et forcément un enfant va juste, enfin si on lui donne cette confiance là, il va tout de suite avoir cette mesure du risque et pas vouloir transgresser forcément.
Alors, vous parlez des Forest School, donc cette immersion en pleine nature, et on fait classe en permanence. Le système des déclics, si nous comprenons bien, c'est plutôt des activités ponctuelles et régulières. Quels enjeux vous voyez aujourd'hui par rapport à la situation actuelle avec une start-up que vous représentez, probablement des associations qui sont investies sur le sujet, et puis les 90 ou 95% du système scolaire public comme privé que nous connaissons?
Oui, alors du coup, nous, on fait des activités, pour rappel, des activités extrascolaires en plein air toute l'année. Donc, c'est des activités récurrentes, comme sur la forme d'un cours de tennis ou d'un cours de musique. L'idée, c'est que les enfants passent 2 heures par semaine, le mercredi ou le week-end. Et le gros enjeu, c'est de pouvoir... permettre au plus d'enfants possible d'avoir ce contact régulier avec la nature chaque semaine, et que ce ne soit pas juste 2 semaines de randonnée avec les parents pendant les vacances d'été. Et nous, on a plein de parents qui nous disent que c'est vraiment le seul moment de la semaine où ils sont dehors au contact de la nature. Et donc, forcément, ils sont avant tout contents de ça. Et en plus, si on leur propose des activités où leurs enfants vont apprendre différentes choses qu'on fait au déclic, ça apporte un plus. Mais du coup, le gros enjeu, c'est de permettre à de plus en plus d'enfants d'avoir ce contact régulier avec la nature, parce que aujourd'hui, nous reçoit pas mal de demandes de parents en dehors d'Île-de-France ou même dans des zones où on n'est pas encore présent, et on ne peut pas satisfaire toute cette demande. Et puis après, l'autre enjeu dont on va parler, je crois, c'est l'enjeu de la formation, puisque du coup, on travaille avec des animateurs qui encadrent du coup ces activités. Et là, il y a une certaine pénurie d'animateurs qui... en général, il y a une pénurie d'animateurs de qualifiés et de bons animateurs, mais surtout sur cette thématique de plein air, il y a un gros enjeu de formation et de créer une filière là-dessus.
Alors effectivement, on va y venir, puisqu'il y a une thématique d'emploi développée par l'ensemble des acteurs de la filière du végétal et du paysage, avec notamment un forum qui se déroule pendant l'événement Jardin Jardin. Je pense aussi à toute la thématique développée par des écologues il y a plusieurs décennies d'animateurs nature. On va revenir à ce sujet. Je voudrais simplement en rebond vous interroger, Sabrina de Canton, en tant que première adjointe au maire de Saint-Ouen. Ce que nous dit Thibault, c'est que les parents des enfants qui ont la chance, parce qu'ils ne sont pas tous dans ce cas-là, de fréquenter les déclics, c'est leur seul moment d'activité régulière en extérieur. Vous avez cité, Thibault, les vacances et le fait de partir. Ça suppose que tout le monde et toutes les familles puissent partir en vacances. Sabrina, quel est votre constat d'élu sur ce point? Quel est le niveau de contact avec l'extérieur et avec la nature, d'une manière générale, chez vos administrés?
Bien, tout d'abord, Pierre, ce que je constate, c'est la très forte attente de la part des parents et la très forte réceptivité de la part des enfants dès lors qu'il y a des activités qui sont proposées dans des jardins partagés, dans des espaces extérieurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la ville de Saint-Ouen, on essaye de favoriser au maximum le développement de jardins partagés et de potagers à l'intérieur des écoles. On a la chance à Saint-Ouen, dans le Grand Parc, d'avoir des jardins ouvriers qui sont le résultat d'une histoire, notamment les jardins ouvriers de l'Alstom, puisque le siège de l'Alstom est à Saint-Ouen, et donc on a des jardins ouvriers en cet endroit, qui nous a permis de développer en parallèle des jardins partagés et une parcelle pédagogique. Donc on a deux manières d'intervenir dans les écoles, d'une manière in situ, on va dire, à l'intérieur des écoles, et grâce à la participation des enseignants, parce que le rôle des enseignants est absolument fondamental pour que cela fonctionne. Donc on intervient dans 9 écoles et 3 centres de loisirs pour pouvoir faire ces activités en extérieur de potager pédagogique, et puis sur les parcelles de la ville en lien avec les associations des jardins partagés et sur la parcelle pédagogique de l'école. Voilà un petit peu comment on intervient. En tout cas, je confirme l'intérêt grandissant et également les difficultés que l'on rencontre en matière de recrutement sur tous ces métiers du paysage, du jardinage et de l'animation nature.
Alors, nous allons poursuivre cette visite et ce tour d'horizon du sujet avec Nicolas. Nicolas Caresser propose des solutions d'agriculture urbaine. Thibault a formulé une réponse sur le sujet. En quoi, pour vous, le contact des enfants avec la nature, plutôt, en l'occurrence, un représentant de nature qui est le végétal, vous semble essentiel?
Comme l'a dit Thibault, ça développe beaucoup de compétences, ça permet de changer aussi un peu de cadre. Alors nous, on travaille principalement dans les écoles, c'est-à-dire de profiter de la cour d'école, qui est un endroit qui a été, au fur et à mesure, de plus en plus artificialisé, et qui concentre, du coup, certains types d'usages. Donc il y a le match de foot, il y a certains jeux prioritaires, mais tout le monde ne trouve pas sa place là-dedans. Et donc l'idée, c'est de se dire que le contact avec la nature, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Thibault, mais apporte plein de bienfaits aux enfants, et on peut le faire en périscolaire, mais on peut aussi le faire complètement dans le temps scolaire, et donc de délocaliser une partie de l'enseignement dans la cour. Et donc c'est à la fois de l'enseignement qui va être au contact de la nature, en lien avec la nature, sur les thématiques du potager, de la biodiversité, le cycle de l'eau, etc. Mais ça peut être aussi des enseignements beaucoup plus théoriques, comme les maths, qui vont se faire dans un autre cadre et qui vont du coup développer d'autres compétences ou changer aussi un peu les rapports de sociabilisation qu'il peut y avoir dans l'école, ou de profiter de cet autre environnement, de ne pas être enfermé entre des murs, des fois d'avoir une mobilité aussi qui est plus libre, d'avoir d'autres approches du bruit, d'autres approches du travail en petit groupe, peut vraiment permettre de développer les compétences scolaires, mais aussi plein de compétences sur la perception de l'environnement, sur la perception aussi du climat. Est-ce qu'on fait classe de la même façon quand il fait très chaud, quand il fait très froid, et comment on adapte l'enseignement scolaire à ce contexte?
Donc ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, c'est à la fois le fait d'être dehors, d'une part, et puis qui permet une grande diversité d'activités qu'on pourrait avoir dans les murs, avec des perceptions peut-être exacerbées de son environnement, et puis ce contact avec des représentants, parfois un peu des artefacts de nature, qui est un média pour partager des activités de sensibilisation, de pédagogie, c'est bien ça?
Tout à fait, et puis aussi ça peut permettre de rendre peut-être plus concrets certains enseignements théoriques auxquels certains enfants ne sont pas forcément réceptifs, mais le fait de compter des choses réelles, le fait de faire le lien avec des cycles, des saisons, des choses comme ça, ça peut permettre d'acquérir des savoirs académiques autrement que par les livres, et donc en fonction de la perception des enfants et de leur sensibilité, ça peut vraiment s'intégrer totalement dans le rythme scolaire.
Alors, vas-y, allez-y Thibaut.
Par rapport à ce que vient de dire Nicolas, c'est, ça peut permettre aussi de, que les enfants fassent un peu plus société entre eux, parce que du coup, tu parlais du terrain de foot où là, c'est surtout, ça va être très genré et du coup, il y a beaucoup de garçons qui vont jouer entre eux. Là, ça permet d'avoir plus d'interactions sociales entre des filles et des garçons ou même plus d'interactions sociales tout court, parce que souvent, la cour de récré est encore liée à des activités assez compétitives. Nous, au Déclic, on encourage aussi beaucoup des activités coopératives. Et l'idée, c'est que les enfants discutent plus entre eux, trouvent des compromis et du coup coopèrent et fassent un peu plus société que dans d'autres activités. Et la nature dans la cour d'école ou au Bois de Boulogne, Bois de Vincennes ou dans d'autres espaces verts, ça amène cet aspect de faire plus société entre tous les enfants.
Alors justement, on va y venir aux activités et laissons la parole à Bertrand. Bertrand Manutan Collectivité a développé notamment avec Caresser tout un univers autour de ce que vous appelez l'école fertile. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que vous proposez avec cette idée-là?
Alors l'idée sous-jacente à tout ça, c'est qu'on a connu une période Covid, il n'y a pas si longtemps, on n'en est peut-être pas sorti, dans laquelle il y a eu une problématique à un moment donné qui était de dédoubler les classes, qui posait problème en fait en volume de présence de densité d'enfants, et donc on cherchait de nouveaux espaces. Et à cette époque-là, le ministère de l'Éducation a souscrit à l'idée d'investir les espaces extérieurs et donc de faire véritablement classe dehors. Alors ça vaut peut-être une petite nuance, c'est-à-dire qu'il y a toutes les activités, tout le domaine, on va dire, sensible, sensoriel qu'on vient d'évoquer au travers du rapport à la nature. Finalement, pour le monde de l'éducation et plus particulièrement l'éducation nationale, il y a toute une logique de travail, il y a un certain nombre d'étapes pédagogiques, hein, il y a des missions qui sont clairement encadrées et qui ne sont pas du tout incompatibles avec l'environnement extérieur, ce que disait Nicolas tout à l'heure. Simplement, il faut imaginer ces nouveaux environnements. Et effectivement, le fait de devoir faire avec un environnement un petit peu plus ouvert au bruit, au changement de température, d'humidité, va solliciter différemment le périmètre d'apprentissage. Et on va mettre en œuvre, alors ça a été très bien décrit par Thibault également, un certain nombre de mécaniques nouvelles qui sont celles effectivement de l'engagement par la mobilité, donc le fait de bouger tout simplement pour un enfant est un acte de volonté en se disant ben oui, je me lève pour prendre la parole et peut-être pour devant les autres mieux participer, ce côté social qui fait que voilà, on a besoin de construire les espaces. Et pour les concevoir, ce qui est intéressant, c'est ce sur quoi nous on s'est concentré, c'est d'essayer de trouver une organisation un peu par zone ou micro-zone, si on peut l'appeler comme tel, pour définir finalement certains types d'activités et marquer les esprits. Ce qu'il faut bien comprendre dans tout ce qu'on évoque, c'est que c'est tellement vaste, tellement dense, que pour beaucoup, ça peut être simplement un rapport, encore une fois, au sensoriel, au sensible. C'est quelquefois plus difficile à propager parce que justement, ça devient très personnel. Donc, marquer finalement dans une cour de récréation un espace parce que c'est un espace calme et qu'on a besoin d'un moment de temps libre, de lecture, parce qu'il n'y a pas que des enfants qui se ruent dans la cour de récréation en criant de tous les côtés, bah c'est un temps tout à fait nécessaire et normal. Et on l'a cité, il y a le côté non-genré, c'est la cour de récréation, c'est pas que la cour du parterre de football pour les garçons, même si j'aime beaucoup le football. C'est aussi tout un tas d'autres logiques d'apprentissage. On peut avoir une relation à la biodiversité qui va être elle aussi structurée à travers les jardins pédagogiques. On peut avoir aussi des observations de la biodiversité. Il y a aujourd'hui dans le cadre des collectivités des besoins au travers de ce qu'on appelle la trame verte et bleue, hein, qui est une obligation légale pour respecter les corridors écologiques de reproduction et de nourriture pour certaines espèces animales. Bien, finalement, les cours de récréation peuvent être une partie de solution pour les collectivités pour développer ces fameux corridors écologiques. Voilà, on pourrait démultiplier, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, faire classe dehors, c'est aussi structurer un certain nombre d'apprentissages. Quelqu'un qui a fait ça il y a déjà pas mal de temps, hein, qui s'appelait Célestin Freinet, mm-hmm. qui était un disciple de Maria Montessori, et qui lui-même hein, avait pour habitude de faire apprendre dehors et de reconstituer tout ça au travers d'un journal pédagogique partagé. Voilà. En tout cas, il y a une logique de travail qui aujourd'hui questionne le monde enseignant, et notre idée, c'est pas de proposer, comment dire, d'arriver avec des packages trop prêts en se disant finalement il y a juste un ensemble de mobilier ou de je ne sais quel autre équipement qui vous permettra de faire tout ça. Il y a aussi une idée qui a été évoquée, c'est celle de le faire ensemble, mm-hmm. et donc de travailler à la co-construction, ce qui est un exercice aussi particulier.
Bien sûr, et alors c'est un peu le contre-exemple que je vais citer à l'occasion de la 17e édition de Jardin Jardin aux Tuileries. Vous avez, Ville de Saint-Ouen, Carrésser, Manutan Collectivité, mis en scène sur une surface de 50 mètres carrés, 5 mètres par 10, si je ne dis pas de bêtises, un jardin, et plus qu'un jardin, une classe dehors, que vous avez appelée donc, l'école fertile, pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes, comme on dit en RSE, l'ensemble des acteurs et des spectateurs, puisque nous sommes tous passés par l'école, à ce sujet. Et c'est un exercice délicat, puisque vous venez de le dire, Bertrand, on co-construit un projet, on le fait sur mesure. Là, vous vous êtes adapté aux contraintes d'un lieu. Vous avez conçu cet espace pour qu'il soit démonstratif. Et cerise sur le gâteau, cet espace ne se limite pas dans le temps à une présentation lors de l'événement, il va être remballé et réinstallé d'une autre manière probablement dans une école de Saint-Ouen. Je voudrais que vous nous en disiez chacune et chacun un petit mot sur pourquoi est-ce que vous vous êtes impliqué dans ce projet et qu'est-ce que vous avez voulu montrer et qu'est-ce qu'on peut voir. Ça donnera, même si nous sommes à l'oral, des éléments autour desquels chacun et chacune peut se projeter. Sabrina, si vous voulez démarrer.
Allez. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une très forte réceptivité des enfants. On voit à quel point les enfants sont heureux quand ils mettent les mains dans la terre. Les enfants se l'approprient très bien, que ce soit les filles et les garçons. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à cette approche que vous avez évoquée tout à l'heure sur la question du genre. Mais c'est vrai que les cours de récréation, pour moi, et encore dans de nombreuses écoles, c'est le terrain de foot, une table de ping-pong dans un coin et une distinction très forte entre les activités des filles et des garçons. Donc c'est vrai que c'est intéressant de l'aborder de cette manière-là. Nous, à Saint-Ouen, la difficulté qu'on va avoir à pouvoir introduire justement de la nature, des activités en extérieur, telles qu'un un potager écologique, c'est dans les anciennes écoles. Puisque aujourd'hui, on constate quand même qu'il y a une très belle évolution de la manière dont sont conçues les écoles à l'heure actuelle, les dessins que font les architectes. Dans les écoles qui vont être livrées, on va avoir 3 nouvelles écoles qui vont être livrées au cours de ce mandat. Il y a systématiquement l'intégration de bacs potagers à l'intérieur de ces conceptions. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ne voyait pas, ne serait-ce qu'il y a 5, 6, 7 ans. Ça n'était pas aussi prégnant, en tout cas, et systématique. Et donc, je pense qu'il faut savoir aussi saluer les efforts et quand ça va dans le bon sens, parce qu'on a tendance à souligner quand ça va dans le mauvais. Mais là, je crois qu'en termes d'architecture et de conception des cours d'école et des écoles en elles-mêmes, les espaces extérieurs sont réellement pensés par les architectes. Et c'est une excellente nouvelle. Et nous le poussons énormément dans les prochains projets projets pardon, architecturaux autour de nos nouvelles écoles. Là, ce qui fait donc sens dans le projet qui est présenté aujourd'hui aux Tuileries, Saint-Ouen est très heureux de pouvoir être associé à un événement tel que le Jardin-Jardin et de pouvoir prochainement présenter une innovation dans une cour d'école, puisque la difficulté que l'on a dans un certain nombre de nos écoles, c'est la présence du bitume partout, des aires de jeu avec des sols souples et basta. La présence de la nature et du végétal est très peu là, mis à part quelques platanes. Il n'y a pas grand-chose en termes de nature. Et donc le projet qui est présenté ici, de façon assez modulaire, assez souple aussi dans sa mise en œuvre, sur un espace contraint, répond parfaitement aux enjeux que l'on a au sein de nos établissements, sachant qu'on a l'ambition de pouvoir créer 3 cours Oasis au cours des 3 prochaines années, ce qui est assez ambitieux, car en termes de coûts, il est beaucoup plus difficile d'intervenir une fois que les cours d'école
sur l'existant, oui.
sont bitumés que sur des écoles où on en est au stade de la conception. Donc voilà un petit peu pour vous parler du contexte dans lequel on intervient et dans lequel ce projet s'insère.
Alors, qu'est-ce qu'on trouve justement dans ce projet? Et puis, deuxième question, la suite pour co-concevoir le réagencement de ces éléments dans le cadre d'une école, le suspense reste entier, qui reste à définir. Nicolas, qu'est-ce qu'on trouve dans ce jardin, dans cette école, cette classe en extérieur?
Alors, ce qu'on a cherché à faire, c'est justement jouer avec l'espace contraint, parce qu'au final, c'est ce qui se passe dans la plupart des écoles, et on a cherché à faire un projet qui restait simple et accessible, à la fois en termes de budget, en termes de mise en œuvre dans la surface que ça prenait, et en même temps d'arriver à développer les différentes zones dont parlait Bertrand, d'arriver à dire qu'en fait cet espace, c'est pas juste un lieu potager où on va faire que du jardin, mais c'est un lieu où il peut se passer plein de choses, un lieu où on va avoir des tables pour faire des ateliers, soit tous ensemble, soit en petits groupes, un lieu où on a une pergola qui permet, on l'a peut-être pas encore dit, mais il y a toute la question de s'adapter à tous les temps, c'est-à-dire qu'il y a plein de situations où vous avez un grand froid, une grande pluie ou une canicule où le préau reste le seul espace accessible en extérieur, alors que les enfants ont plein d'énergie à libérer. Donc l'idée aussi de gagner de l'espace sur la cour avec des pergolas végétalisées, et puis du mobilier qui va être modulaire, donc on peut déplacer facilement, que les élèves peuvent déplacer pour que ça s'adapte en fonction des saisons. Et on reste dans l'idée quand même de faire classe dehors, c'est-à-dire qu'on a mis des tableaux, on a mis des tableaux mobiles, on a des craies, et l'idée c'est que ça se prête vraiment à une diversité d'activités pour que ça devienne, ça change un peu les polarités dans la cour d'école. Et par rapport à ce que disait Sabrina, il y a plein de projets aujourd'hui de désimperméabilisation d'écoles qui sont parfois longs, coûteux, etc. Et l'idée, c'est que ça vient en complément. On peut avoir des projets qui sont en préfiguration, des projets où on peut tester les usages avec les équipes pédagogiques, avec les élèves, avec les services techniques, pour être sûr que tout le monde va dans le même sens et éviter certains écueils qu'on peut avoir des fois où bah, tout simplement tout est installé, mais personne n'arrose parce que il y a plein de gens impliqués, mais on ne s'est pas posé la question exactement de qui allait le gérer, qui allait le faire vivre, ou que les enseignants parfois ne savent pas en parler, parce que ça a été conçu ou installé par quelqu'un d'autre, ils ne savent pas l'expliquer, et donc ils ne sont pas à l'aise dans leur rôle d'enseignant. Donc on essaye sur cet espace de 50 mètres carrés de proposer différents usages qui sont en lien direct avec la pédagogie et sur lesquels les contraintes techniques, etc. n'existent pas, ou en tout cas sont réduites au maximum pour les équipes pédagogiques.
Alors justement, les équipes pédagogiques, vous en parliez tout à l'heure, Bertrand, en parlant du corps enseignant. Est-ce que les équipements proposés par Manutan Collectivité, ce sont des équipements d'intérieur qu'on va mettre à l'extérieur, il faut absolument les protéger de la pluie, ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont spécifiquement développées ou détournées de leur usage premier pour être adaptées à une classe dehors?
Alors, j'aime bien le terme de détournement,
oui.
Parce que c'est aussi une des leçons, un des apprentissages en tout cas, de cet exercice de la classe dehors, ou en tout cas du retour à la nature. Je pense que Thibaut peut en témoigner. Il y a une logique finalement d'appropriation qui est extrêmement importante. Dans ce que disait Nicolas, on a un exemple, puisqu'on parle du même endroit, hein, on ne va pas parler de la ville, mais une école où effectivement le projet de la collectivité a été plutôt bien mené. Au départ, c'était d'ailleurs un souci de point de fraîcheur, de rafraîchissement, parce qu'il y avait beaucoup de réverbération dans la cour. Mais finalement, le corps enseignant n'a pas été associé à cette démarche-là. Alors le corps enseignant, c'est aussi les arcanes de l'éducation nationale, hein, ça part du rectorat, du corps d'inspection, etc. Donc tout ça fait que bah, quelques mois après, oui, les plantes ne sont pas arrosées, et finalement on n'a pas l'effet escompté. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, l'effet escompté de tout ce rapport à la nature, au-delà des bénéfices, j'allais dire, physiologiques, c'est aussi un bénéfice sociétal, cette capacité à travailler ensemble, à produire quelque chose de différent et non pas chacun dans son coin ou voir les uns contre les autres. Donc là, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est qu'on essaye, nous, de proposer des solutions qui soient d'une part vertueuses en termes de développement durable. Donc il s'agit de trouver des équipements qui respectent tout simplement la nature et le recyclage, par exemple. On peut être amené à travailler dans des notions de réemploi et de détournement en profondeur avec du mobilier déjà existant. On travaille sur beaucoup de choses, hein. Là on parle beaucoup de l'école, mais on travaille sur les tiers-lieux, on travaille aussi dans les EHPAD, enfin, en tout cas les établissements de grand âge où on a les mêmes problématiques et on n'a pas forcément besoin aller chercher à chaque fois un équipement neuf, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'arriver à transformer la conscience dans laquelle on se trouve de ce rapport à la nature qu'on a un peu oublié ou un peu perdu. Il est pas bien loin au fond de nous, mais voilà, il faut revenir le chercher. Donc cette notion de construction, finalement, elle prime sur l'équipement quelque part, à la seule limite de respecter bien évidemment des conditions quand même de sécurité et d'usage qui sont basiques. Voilà.
Donc on le voit, il y a des leviers d'action assez simples, on va rentrer juste après dans la méthodologie, mais il y a une question que je ne voudrais pas omettre parce qu'elle me semble clé, et c'est une question pour vous Sabrina en tant qu'élue. Vous nous dites, les nouveaux projets intègrent de plus en plus le rapport à l'extérieur. On parlait aussi tout à l'heure de l'inégalité sociale qui existe face à la capacité à être en vacances, face à la possibilité d'avoir des parents qui pensent à nous inscrire à une activité et qui peuvent payer une activité qui permet de pallier le déficit d'accès aux extérieurs et à la nature. Nous vivons dans des villes de plus en plus denses. Dans certaines villes, la densité et la promiscuité, notamment dans les logements, est assez forte. Et il y a un service public qui est celui de l'école républicaine, laïque, gratuite pour tous. Au fond, est-ce que ce petit sujet, entre guillemets, de la végétalisation, pour prendre ce néologisme, des cours d'école, ou en tous les cas de faire de la cour d'école le premier point de contact et d'accès à la nature, est une forme de droit social que vous revendiquez, Sabrina ? Ou est-ce que je vais trop loin ?
Non, c'est intéressant que vous posiez la question, justement, parce que c'est une des premières choses qu'on a voulu regarder, c'est l'accessibilité des cours d'école. L'accessibilité, je veux dire, en temps de canicule, par exemple, ou l'été. Puisque dans une ville comme Saint-Ouen, pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans une ville avec une très très forte densité urbaine et une densité qui continue encore à galoper, puisqu'on va sur une augmentation de la population de 53 000 à 70 000 habitants d'ici 10 ans. Donc sur un territoire qui est déjà extrêmement contraint. Donc une très forte urbanité. Et ce qu'on s'est dit, c'est que pourquoi pas essayer de penser ces cours d'école qui sont vides au moment de l'été et qui sont quand même des espaces où on peut se retrouver, où il y a de l'ombrage, pourquoi pas essayer de les rendre accessibles à tous. Alors ça pose un certain nombre de contraintes, de problématiques que l'on essaye de lever en termes réglementaires d'abord et puis également en termes d'entretien, puisque ce sont des espaces qui sont gérés par la ville, ce qui concerne en tout cas les maternelles et les élémentaires. Et en termes d'entretien, eh bien, tout ce qui est lié au jardinage ou à la propreté, c'est délégué à pleine commune, donc c'est-à-dire à notre EPT. Donc il y a des choses à regarder aussi avec l'éducation nationale, il y a des choses à regarder en termes de fonctionnement, d'entretien. Et c'est pas forcément simple, mais en tout cas, c'est une piste que je pense qui va être de plus en plus explorée par un certain nombre de collectivités dans des espaces très denses. La manière dont on rend accessible la nature au plus grand nombre, puisque votre question porte sur les discriminations sociales, de l'accès à la nature, tout simplement. Évidemment, c'est pas pareil quand on a une résidence secondaire en Normandie et quand on habite dans le logement social à 50 mètres carrés avec une famille, avec 2, 3 ou 4 enfants et qu'on n'a pas forcément les moyens de partir en vacances. Là-dessus, les collectivités, elles ont un levier qui est important, c'est celui des colonies de vacances, tout simplement. Des colonies de vacances, et là, ça dépend du patrimoine, du niveau d'entretien du patrimoine de chaque collectivité. Donc là, il n'y a pas une réponse, mais il y a des réponses en fonction des villes qui sont plus ou moins riches, plus ou moins dotées. Et puis, il y a également tout ce qui est jardin partagé, ce que l'on développe à Saint-Ouen, ce que l'on développe dans énormément de villes. Ce n'est pas une très grande originalité, ça se développe vraiment partout. Mais on voit vraiment que dans ces espaces, même s'ils sont très, très petits, même si parfois c'est simplement 60, 70 mètres carrés, eh bien, ce sont des lieux de rencontre et des lieux de rencontre intergénérationnels. Vous voyez à la fois des personnes qui sont à la retraite et à la fois des petits. Et ça, c'est vraiment formidable à voir. Et je pense que c'est important pour tisser aussi ce lien avec la transmission. La transmission, il était question des écoles, et cette transmission, elle peut se faire à l'école, mais également dans ces espaces.
Dans d'autres
publics.
Espaces partagés, entendu. Alors, la question de la place, du lieu, elle se pose aussi quand on part en colonie de vacances ou en classe verte, ou avec les déclics en classe verte toutes les semaines. Une question qu'on peut se poser, Thibaut, où emmenez-vous les enfants, les franciliens, je crois, surtout, faire leurs activités, reprendre un peu de liberté et de contact avec différentes formes de vivant?
Oui, juste avant de répondre à la question, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Sabrina, parce que en plus d'être un droit, ce contact avec la nature pour la majorité des enfants et de la population, je pense que c'est aussi un besoin, en tout cas, surtout pour les enfants, parce qu'il y a un grand monsieur qui s'appelle Richard Louv qui a théorisé pas mal de choses sur ce qu'on appelle le syndrome de manque de nature. Et il a dit que, au même titre que de se nourrir et de dormir, le contact avec la nature est un besoin pour, et peut-être aussi un besoin pour le développement des enfants. Et aussi, je voulais rajouter, je pense qu'il y a un vrai enjeu culturel. Vous parliez des enjeux tout à l'heure, Pierre. Il y a un vrai enjeu culturel de... parce qu'on a tous vécu, enfin moi je m'inclus dedans, tous un peu des générations antérieures, parce qu'on a tous vécu un peu coupé de la nature, même si on avait accès à un jardin, c'est même vrai. Si on part en vacances dans la nature, on fait tous partie de ce même bateau où on a appris à vivre détaché de la nature, et nous on voit très bien, il y a dans pas mal d'activités, les enfants ont peur de la nature, ont peur parfois de s'asseoir dans l'herbe, et il y a beaucoup de parents aussi qui nous demandent qu'est-ce qu'on fait quand il fait pas beau? Et en fait, on leur dit simplement, il faut juste bien équiper vos enfants et il n'y a pas de souci. Il y a un fameux proverbe qui dit qu'il n'y a pas de mauvais temps, que de mauvais vêtements. Et c'est assez vrai. Et donc, il y a un vrai enjeu culturel et on essaye vraiment aussi de communiquer là-dessus pour faire changer les mentalités. Et que, par exemple, aujourd'hui, là, à midi, il y avait une pluie battante. Deux heures plus tard, il fait super beau. Là, actuellement, il y a des enfants qui se retrouvent dans les activités des déclics. Et donc, ça me permet de faire le lien avec votre question, Pierre.
Oui.
Nous, du coup, on essaie de profiter du maximum d'espaces verts auxquels on peut avoir accès. Donc, ça va être surtout le Bois de Boulogne et le Bois de Vincennes proche de Paris, puisqu'il y a une grosse demande des Parisiens. Et puis après, on est assez pragmatique dans notre approche. Et on va aussi dans des parcs intramuros, comme le parc Montsouris, le parc des Buttes-Chaumont. On fait même des activités, pour vous dire, au Jardin du Luxembourg, ce qui n'est pas du tout la nature luxuriante comme on peut l'imaginer. Mais en fait, c'est beaucoup mieux que rien et c'est beaucoup mieux que de rester chez soi entre quatre murs sur les écrans.
À quoi ça sert d'avoir des vêtements si on peut rien faire dedans, avait dit un publicitaire, je pense, pour une célèbre marque que nous ne citerons pas. On a parlé des lieux, on a esquissé deux sujets qui me semblent essentiels à aborder en conclusion. La première, c'est pour chacun et chacune d'entre vous, quels seraient les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui fait que ça marche, mais aussi qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas?
Eh bien, j'attaque.
Nicolas.
Pour moi, c'est vraiment le fait d'être sûr que le projet répond aux besoins d'une équipe et que le projet est bien dimensionné. Quand je dis équipe, ça va être les enseignants, ça va être les services techniques de la ville, ça va être tous les acteurs impliqués dans l'entretien, ça va être les parents parfois, qui n'ont pas un rôle au quotidien, mais on l'a vu avec que ce soit les plans Vigipirate ou le Covid, a fait que les parents restent maintenant souvent à l'extérieur, ne savent pas vraiment ce qui se passe dans l'école. Mmh. Et le fait d'avoir une cour végétalisée est aussi un facteur de lien, de discussion sur ce qui se passe, parce qu'on voit la cour, on voit la nature et on peut plus partager avec les enseignants, avec les enfants. Donc c'est vraiment ce côté co-construction et ce côté montée en puissance, je dirais progressive, de se dire réapprenons, parce que de la même façon que les enfants sont un peu coupés de la nature, les enseignants peuvent l'être, certains services des collectivités aussi. Donc il y a cet apprentissage à refaire ensemble, et des fois d'y aller petit pas par petit pas, ça peut permettre que ça reste un plaisir et que ce soit pas d'abord des contraintes et des échecs dans la gestion.
Sabrina.
Oui, je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit. Pour moi, les facteurs clés de succès, c'est avant tout le facteur humain, évidemment. C'est-à-dire, effectivement, l'implication des enseignants, mais pas que, parce qu'on a parlé du vivant, parce que le jardin, c'est du vivant. C'est-à-dire que si on ne s'en occupe pas, bah, ça meurt tout simplement. Et là-dessus, notre plus grand ennemi, c'est l'été. Parce que l'été,
il n'y a personne.
Il n'y a plus personne. Et donc, du coup, là où ça fonctionne, parce que si personne n'arrose pendant l'été, on arrive en septembre, bah, tout est mort. Et ça, c'est extrêmement décevant pour les enseignants, c'est extrêmement décevant pour les enfants également. Mm-hmm. Et puis, ce n'est pas du tout le message qu'on a envie d'envoyer. Donc, pourquoi le facteur clé, c'est l'humain ? C'est parce que, par exemple, si on n'inclut pas au départ, bah, ça paraît tout bête, mais les gardiens des établissements, ou les services techniques de la ville, effectivement, s'il n'y a pas de gardien ou si le gardien n'est pas là tout le temps, eh bien, on se retrouve avec, en septembre, bah, plus du tout de potager. Mmh. Et puis, un fonctionnement qui, au fur et à mesure, risque tout simplement de s'essouffler. Donc, l'humain. Et la ressource humaine également, c'est-à-dire d'avoir des animateurs nature, donc des personnes qui sont formées et qui peuvent à leur tour former les enseignants, parce que les enseignants, ce ne sont pas des jardiniers à la base. C'est-à-dire que quand même, ils interviennent sur un champ de compétences qui n'est pas un champ de, qui n'a jamais été un champ d'apprentissage pour eux. Donc s'ils ne sont pas un minimum formés, eh bien, ça ne peut pas fonctionner.
Mmh. Alors, Thibaut, dans un cadre un tout petit peu différent, qu'est-ce que vous diriez des facteurs clés de succès et aussi de ce qui peut fracasser un projet, entre guillemets ?
Bah, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'on fait aussi des partenariats avec des écoles pour créer des groupes d'enfants qui vont, sur le temps périscolaire, partir dans l'espace vert le plus proche de l'école et qui vont vivre nos activités. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une grosse volonté, une grosse motivation à partir sur ce projet, mais beaucoup de freins, notamment sur l'aspect sécuritaire. Et je pense que là, c'est encore culturel, c'est de rassurer les enseignants, rassurer les parents que voilà, la nature, c'est pas dangereux. Et aussi, bah, nous, on sort du cadre de l'école, donc du coup, tout de suite, ça engendre plus de... Enfin, on sort des quatre murs de l'école, pardon. Et donc, du coup, tout de suite, ça engendre un peu plus d'incertitude pour les enseignants, le directeur ou la directrice d'établissement. Mais donc, du coup, il y a ce gros enjeu de rassurer tout le temps et de... d'exposer factuellement ce qui va se passer et que tout est mis en place pour que ça se passe bien. Il y a quand même peu de chances qu'il y ait des accidents. Pardon.
Bertrand.
Oui, si je peux juste reprendre justement ce que dit Thibaut, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a un gros facteur d'appropriation. Mmh. Il faut que chacun, chacune puisse rentrer dans ce type de projet. Alors, une des conditions sine qua non, c'est quand même que même au sein de l'établissement, il y a un réel projet pédagogique. C'est pas quelque chose qu'on fait complètement, encore une fois, au hasard. Il y a beaucoup d'intuitifs, mais c'est quand même mieux quand c'est écrit, quand c'est posé. Et il y a un corollaire à ça, d'ailleurs, qui est illustré sur le stand sur lequel je vous invite à passer, c'est qu'on a des panneaux. On a des panneaux explicatifs qui disent ce à quoi sert telle et telle zone, tel ou tel équipement, telle ou telle situation. Alors pour nous, ça peut paraître un petit peu, j'allais dire, infantile, parce que maintenant on sait, on a compris ce dont on parlait, mais pour quelqu'un qui arrive, qui peut être un parent d'élève, mm-hmm. des personnels d'entretien, des gens d'autres générations, puisqu'on parlait de l'ouverture intergénérationnelle, c'est pas si simple. Et donc, communiquer par le côté affichage, par des mots simples, ça aussi, ça vertu. Donc, la capacité, finalement, à faire vivre un projet, elle est aussi dans sa capacité à le rendre simple, mais construit.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, on le co-construit, on le co-conçoit, on partage un certain nombre de messages qu'on affiche. Et puis, vous avez cité à plusieurs reprises, le mot animation. Vous avez parlé de compétences. Je voudrais qu'on conclue là-dessus. Petit tour d'horizon, prend la parole qui le souhaite, sur justement quelles sont les compétences nécessaires en matière d'animation et quel est le gisement d'emploi que ça représente pour vous. Est-ce que c'est des métiers demain qui sont amenés à recruter de manière significative ? Qui veut commencer ? Thibaut, je crois que c'est un sujet auquel vous êtes sensible de fait.
Ouais, moi je rêve d'un jour où il y ait toute une filière organisée au même titre qu'il y ait des professeurs de musique ou des professeurs de tennis qui existent, qui ont un vrai diplôme, qu'il y ait un vrai diplôme reconnu qui formalise une formation d'animateur nature ou plus d'animateur en plein air au sens large plutôt. Et que du coup il y en ait beaucoup plus aussi par conséquent. Nous, ce qu'on cherche, c'est dans l'animation pour nos activités qui sont assez spécifiques, hein, donc 2 heures d'activité en plein air dans des espaces verts publics, surtout à Paris et en Ile-de-France. On cherche des gens qui vont d'abord devoir assurer la sécurité des enfants. C'est un essentiel. Qui vont savoir donc gérer le groupe d'enfants, savoir les animer, savoir gérer des imprévus, qui vont être du coup responsables, organisés, débrouillards, parce que du coup il y a souvent si se met à pleuvoir d'une minute à l'autre, l'animateur doit prendre les bonnes décisions. Mm-hmm. Et on cherche aussi des animateurs qui ont cette capacité à transmettre les objectifs pédagogiques qu'on ambitionne de transmettre. Et donc ça peut, c'est développer la coopération chez les enfants, les sensibiliser sur des thématiques liées à l'écologie comme les abeilles et la pollinisation, le plancton dans la production d'oxygène, c'est des exemples parmi tant d'autres. Donc c'est vraiment des moutons à cinq pattes et qui devraient, qui on l'espère, vont être plus nombreux dans les années à venir.
Alors, votre troupeau de moutons à cinq pattes, ça recrute chez les Déclics. Vous avez posté un message il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn. Combien d'animateurs cherchez-vous maintenant très concrètement pour la rentrée 2022-2023? Pour la rentrée de septembre 2022?
Nous, on cherche une trentaine d'animateurs, donc c'est assez conséquent, pour justement prendre en charge un ou plusieurs groupes d'enfants, donc 2 heures par semaine, de septembre à juin. Et donc du coup pour vivre ces activités avec un petit groupe de 6 à 10 enfants.
Eh bien l'annonce est passée, des réactions sur les compétences à mobiliser, plutôt in situ dans l'école, et sur les profils qui aujourd'hui endossent ça et ceux que vous recherchez les uns les autres.
Pour moi il y a une vraie question sur l'humilité en fait, et sur l'apprentissage, c'est-à-dire que la cour d'école ou la ville en général est un endroit assez contrôlé. On contrôle l'apprentissage, on contrôle le timing. Quand on va être en extérieur, on ne contrôle pas forcément le temps qu'il fait, on ne contrôle pas forcément la pousse des légumes si on a prévu de faire un atelier là-dessus, on ne contrôle pas non plus la mobilité des enfants qui vont être beaucoup plus libres. Mm-hmm. Donc il y a un changement de posture, pour moi c'est surtout ça, et d'accepter que l'enseignant ne saura pas forcément tout, mais qu'il est dans une posture de construction et que le planning s'adapte aux saisons et que tous les apprentissages vont s'adapter aussi à différents facteurs parce qu'on revient dans les rythmes naturels et on découvre un peu comment ça s'adapte. Donc c'est surtout ces questions d'accepter qu'on ne sait pas tout et de construire avec les autres équipes.
Et justement, côté enseignant, Bertrand ?
Alors moi, ce que je retiens, c'est plutôt peut-être des profils de facilitateurs ou facilitatrices. Des gens qui sont dans la capacité à dégager des pistes, plein d'initiatives. Ce que cite Thibault, pour moi, est très révélateur parce qu'on ne sait pas tout. Et comme on souhaite que les gens s'engagent, s'approprient encore une fois tout ce que l'on vient de décrire, mais la meilleure des façons, c'est d'être acteur du panel de propositions. Tout ça en étant, si possible, gestionnaire de projet, parce qu'il faut que cela reste dans un domaine maîtrisable, puisqu'on est quand même dans la responsabilité des enfants et de leurs apprentissages.
Sabrina, le mot de la fin pour Sabrina, avant de conclure.
Alors nous, on va carrément chercher le mouton à six pattes, j'ai envie de dire, puisque notre équipe en fait, qui est en charge de l'animation nature de la ville, donc c'est l'équipe de la serre, Wangari, qui est un lieu dédié justement à l'écologie à Saint-Ouen qu'on a inauguré récemment. Ce qu'on va chercher prochainement, alors on n'a pas une ambition de recrutement aussi grande que les Déclics, mais on va chercher à recruter un animateur ou une animatrice qui soit capable de faire le lien entre la terre et l'assiette. Parce que c'est un des enjeux aussi, c'est de travailler sur la sensibilisation à l'alimentation. Tout à l'heure, on parlait de la saisonnalité, mais également au goût, à la diversification des aliments auprès des enfants. C'est aussi quelque chose qui est très, très important. Et donc, ce que l'on va chercher, c'est quelqu'un qui, effectivement, a ce savoir pratique et aussi ce savoir théorique dont vous parliez tout à l'heure, donc dans l'adaptabilité qui est nécessaire aussi pour pouvoir travailler en extérieur et puis aussi pouvoir expliquer qu'est-ce que la photosynthèse, comment pousse et pourquoi les légumes et les fruits poussent différemment, etc. Donc, nous, on va chercher justement à faire ce lien de la terre à l'assiette à travers les compétences d'une personne qui, je l'espère, nous rejoindra en 2023.
Eh bien, ces appels sont lancés. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, de nous regarder, d'être ici présents à Jardin Jardin aux Tuileries. Je rappelle que nous étions en présence de Sabrina Decanton, première adjointe au maire de Saint-Ouen, en charge de la transition écologique des mobilités, notamment de Nicolas Brulard, responsable de CARSR, Solutions pour l'agriculture urbaine, de Thibaut des Déclics et enfin de Bertrand Chavanel de Manutan Collectivité. Et pour terminer, je voudrais vous citer celui que nous avons évoqué en introduction, qui est Pierre Perret, qui nous disait dans sa chanson « Donnez-nous, donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises, d'où l'on revient des petites fleurs à la main quand on a déchiré sa chemise. Des jardins aux odeurs sauvageonnes, ça vaut celle des oxydes de carbone. Bien souvent, je rêve de bêtes et de prairies, recherchant une trêve à cet univers un peu gris. » Merci à Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union Européenne, par le truchement de l'interprofession Valor, pour ce cycle d'émissions pour une ville nature que vous pouvez écouter, regarder à loisir sur radio.imo et radioterritoria.fr. Merci à tous, merci à toutes, à bientôt dans les cours d'école, dans les forêts. Générique.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.